Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine sur In Power, je reçois un philosophe et écrivain, ou écrivain et philosophe dans l'ordre que vous voulez, Charles Pépin. Auteur de best-sellers tels que Les Vertus de l'échec, La confiance en soi, ou plus récemment son tout dernier livre sorti, La rencontre. Car pour Charles, la vie est avant tout une succession de rencontres, avec des personnes, avec des idées, parfois avec des obstacles. Le tout, c'est de savoir les appréhender et en tirer le meilleur pour se découvrir soi et découvrir le monde. Ce que j'apprécie beaucoup avec le travail de Charles, et ce qui se ressent, je trouve, dans notre conversation, c'est que Charles ne rend pas la philosophie aride ou réservée à une élite, il la rend accessible, démocratique, pratique. Il nous invite à réfléchir, à remettre en question, pour que l'on puisse appliquer la philosophie dans notre quotidien et prendre le pouvoir de notre vie. Autant vous dire que j'étais donc ravie de recevoir Charles, et je suis tout aussi ravie de vous partager notre conversation, qui je pense pourra vous aider dans votre cheminement personnel. Si vous appréciez cet épisode, et si ce n'est peut-être pas la première fois que vous écoutez In Power, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes partageant votre avis. Je remercie aujourd'hui Gauthier53 qui a écrit le commentaire suivant. Ma chère Louise, plus d'un an que j'ai commencé à écouter tes podcasts, et je n'avais encore jamais pris le temps de t'écrire un commentaire. Merci à toi pour tout le savoir que tu transmets, pour la tolérance que tu prônes, mais surtout merci pour toutes les expériences racontées de chacun. Sache que lorsque je sors d'un de tes podcasts, je me sens fort, fier, mais surtout capable. Hâte d'écouter le prochain épisode, merci. Merci à toi Gauthier pour ce message hyper touchant, je suis vraiment reconnaissante de ton soutien et de savoir que le podcast peut apporter des clés au quotidien et ça me donne envie de continuer à vous partager, je l'espère, des conversations inspirantes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Charles Pépin. Bonjour Charles.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power.
Ravi.
Je suis ravie de te recevoir et de partager un peu plus sur ton parcours. Ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Ok. Alors je m'appelle Charles Pépin, comme un problème, comme un parapluie en argot. Je suis romancier et philosophe, enfin philosophe et romancier. J'ai enseigné la philosophie plus de 20 ans et je me suis consacré à l'écriture depuis quelques années en arrêtant l'enseignement et en essayant d'avoir plus de temps pour écrire plus. Et du coup, j'écris moins. Puisque je fais n'importe quoi, je me disperse, j'accepte plus de propositions comme celle-là. À l'époque où j'étais prof, j'aurais pas pu accepter. Et ben maintenant, j'accepte. Et donc, du coup, j'ai moins de temps pour écrire.
Voilà, ouais. je m'excuse pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont fans, peut-être de tes ouvrages. It's on me. Mais vous allez pouvoir en apprendre plus sur Charles. Je me demande comment on arrive à se dire... ouais, en fait, j'ai envie d'étudier la philo et potentiellement d'en faire ma vie. Parce que je sais pas si c'était le cas à ton époque... Mais alors je sais que moi, on m'a mis dans la tête très très vite, ouais. Tu vas rien pouvoir faire de la philo à part prof de philo.
Parce que tu avais cette tentation ?
Alors, j'avais pas forcément la tentation d'étudier la philo, parce que bah, comme je t'ai dit un peu avant de commencer, désolé s'il écoute ce podcast, mais mon prof de terminale n'était pas passionnant. Mais j'avais une appétence pour la matière, de manière générale pour tout ce qui touche à la littérature. Ouais. Et donc ce fameux choix, alors ça y est, j'ai l'impression d'être très vieille, mais à l'époque, à mon époque où il y avait encore des filières genre ouais, L, ESS, qui était à 2 ans, hein, mais voilà, je voulais faire L. Et en fait, on m'a dissuadé en me disant, en vrai, t'as des bonnes notes dans toutes les matières, enfin fais ES, ouais, quoi. Sûr, ouais. Alors que si je m'étais écouté, j'aurais fait L.
Non, écoute, moi, c'est pas venu tout de suite, le désir d'être prof de philo. Mais j'ai senti quand même cette espèce de tentation revenir comme ça de façon un peu lancinante. D'abord, quand j'étais à Sciences Po, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de philo, que c'était un peu superficiel comme enseignement quand même. Et du coup, je voulais aller en fac de philo en même temps, mais je ne trouvais pas le temps. Donc je lisais par moi-même, mais pas assez. Ensuite, quand j'ai été admis à HEC après Sciences Po, là, j'ai vraiment eu peur d'aller à HEC et que ce soit encore plus superficiel, enfin, selon moi. Du coup, là, je suis allé en fac de philo pendant un an en demandant à HEC un report d'intégration.
Mais alors, pourquoi t'as voulu faire HEC si t'aimais la philo? Parce que
non,
autant
parce que
à Sciences Po, il y en a un peu, autant à HEC...
HEC parce que j'aime l'économie,
ouais.
Parce que j'ai toujours été tenté par l'entrepreneuriat, parce que j'aime bien des figures d'entrepreneurs, parce que j'aime bien la vie réelle, j'aime bien inventer des choses, voilà. J'avais cette part de moi aussi qui était différente, pas spécialement une part de philosophe ni d'amateur de littérature. Et puis aussi, j'étais jeune, quoi, j'avais 20-21 ans au sortir de Sciences Po. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très conjoncturel, c'est que mon prof de philo de terminale, qui a eu une rencontre décisive pour moi, dont je parle d'ailleurs dans mon dernier livre, qui porte pour titre « La rencontre, une philosophie », il y a un chapitre consacré à Bernard Clerté, donc, en fait, c'est lui qui a monté une prépa HEC l'année où moi je sortais de Sciences Po. Donc c'est un peu le hasard, il a rappelé certains anciens élèves, c'était avant qu'on devienne très proches. Du coup, peut-être que j'aurais même pas eu l'idée, en fait, c'était un peu un hasard, quoi, s'il ne m'avait pas proposé comme ça. Ensuite, je me suis retrouvé à HEC, là, c'est carrément, c'était carrément l'allergie. Ah j'étais vraiment, c'est pas que j'étais pas bien, parce que je suis en général assez bien partout, mais j'avais vraiment rien à faire là, quoi. Je trouvais les gens, enfin, les centres d'intérêt, les gens plutôt intéressants, en fait, mais leurs centres d'intérêt n'étaient pas les miens, leurs goûts n'étaient pas les miens, leurs... façon de vivre n'était pas la mienne, d'ailleurs je ne vivais pas sur le campus, etc. Donc là j'ai commencé à aller en fac de philo en même temps qu'à HEC, à faire ma, à l'époque on appelait ça une maîtrise, et je l'ai faite en 2 ans, et au sortir d'HEC, je me suis dit voilà, c'est l'heure du choix, de la décision, j'étais pris aux études économiques chez Paribas, je crois. Non, à la Société Générale, pardon, je confonds. Donc je pouvais commencer avec un bon job, quand même, assez, voire très bien payé pour l'époque, et en plus, études économiques c'était un peu théorique, c'était intéressant. C'est les économistes dans les banques, c'est plutôt un truc qui me plaisait. Et face à ça, j'avais l'idée de devenir prof de philo, mais je n'avais pas de concours, j'avais juste une maîtrise. Et en fait, est arrivé un autre élément, qui est la littérature. C'est-à-dire que je voulais surtout, en fait, à l'époque, être romancier plutôt que philosophe. Et donc, je me suis dit que si j'étais à la Société Générale aux études économiques, je n'aurais jamais le temps d'écrire de romans. Tandis que si j'étais prof de philo... À l'époque, je me disais, d'ailleurs, je le dis encore, même si ça fait bondir les profs, pour moi, enseigner 14 heures la philo au lycée, ça s'appelle plutôt un mi-temps. Quand on est agrégé, c'est 14 heures. Du coup, je me suis dit, c'est la belle vie, je vais passer la grecque de philo, je vais aller au lycée, j'aurai des élèves trop sympas qui auront 5 ans de moins que moi, et je leur raconterai ce qui est ma vie, parce que je n'ai pas vraiment besoin de travailler. Quoi. Je vis dans ces notions de philo depuis 6-7 ans, à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais passer la grecque, ou le CAPES, hein, mais surtout pour écrire des romans. Et surtout, je me suis aussi dit, parce que j'avais une pression familiale pour devoir gagner ma vie, quoi, gagner de l'argent, je me suis dit, je le tente qu'une fois. Et puis voilà, Inch'Allah, si je l'ai, soit le CAPES, soit la grecque, je vais enseigner la philo. Et si je ne l'ai pas, bah, je vais à la Société Générale. Enfin, en fait, non, parce qu'ils n'allaient pas m'attendre un an. Mais en gros, je cherche un boulot. J'étais tenté par d'autres choses. D'ailleurs, je pense avec étonnement qu'à l'époque, j'étais tenté par la pub. Parce que quand on est jeune, on comprend rien. On dit c'est des créas, des créatifs. Alors ça que pour moi aujourd'hui, les créas dans la pub, c'est pas du tout de la créativité. Pour moi, c'est carrément une figure presque repoussoire. Mais je reconnais que quand j'avais 21 ans, je me cherchais quoi. Et je ne voyais pas ces créatifs au service simplement du capitalisme le plus marchand. Bref, je passe la grecque et je l'ai du premier coup. Donc un peu un coup de chance aussi, parce que je tombais sur des sujets qui me plaisaient vraiment. Enfin, j'étais un peu en état de grâce, quoi. Tous les sujets m'ont plu, donc j'ai eu la grecque du premier coup.
C'est quoi, juste comme concours, la grecque? C'est tu dissertes pendant 8
la
heures
La grecque, il y a un écrit, avec des épreuves qui durent 6, 7 ou 7 heures, quoi. Dissertation, explication de texte, et après, il y a un oral. Enfin, il y a 3 euros, et c'est le grand amphi de la Sorbonne, et c'est... assez intéressant comme épreuve, parce qu'on a un grand oral de, par exemple, de 40 minutes, et on a 6 ou 7 heures, je sais plus, pour le préparer. Donc c'est aussi un truc physique où il faut savoir comment je mange, comment je gère mon temps. Donc tout ça, ça m'a beaucoup fait marrer, quoi. Donc j'ai eu la grecque de philo, et là je suis parti enseigner à Cambrai. Et là, je me suis d'ailleurs pas mal consacré à l'écriture de mes premiers romans.
Okay.
Donc finalement, c'était pas du tout une vocation, c'était juste c'était pas très clair, c'est un peu comme ça qu'on chemine. Ce truc est venu me parler, me tenter à répétition, mais j'y suis plutôt allé, en fait, à reculons, plutôt pour être romancier. Il se trouve qu'après, non seulement mes deux premiers romans n'ont pas du tout rencontré le succès que moi, je visais, en fait, et en plus, je me suis rendu compte que quand j'étais sur l'estrade, je me souviens de cette belle estrade en bois, là, au lycée Fendon de Cambrai. En fait, j'étais bien, quoi. C'était vraiment ma place, que j'adorais ce métier, que j'adorais la rencontre avec les élèves, que j'adorais, en fait, ça. Mais j'ai mis des années à l'accepter, parce que pour moi, c'était plutôt pour faire autre chose, en fait. Et puis, avec le temps, il s'est passé un truc assez marrant, qui est souvent la vie nous donne des signaux, quoi. C'est qu'en fait, quand j'existais en tant que romancier, quand je faisais des romans, quand j'allais dans des salons littéraires. En fait, le retour du monde, ce que le monde me renvoyait, ne me satisfaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne marchait pas. Je parlais peut-être de choses trop intimes. Je blessais mes proches. En même temps, je n'avais pas assez de succès à mon goût. Je trouvais ces salons un peu moisis. Il y avait tout le monde littéraire français est un peu particulier. Il y a beaucoup de vieux qui grenouillent comme ça. Il faut être un peu courtisan. Enfin, rien ne me plaisait, en fait. Et pourtant, en fait, mes romans ont quand même pas mal marché pour des premiers romans. Mais en gros, il y a un truc qui n'allait pas. Et puis, parallèlement, dès que je faisais des choses en tant que, on va dire, prof de philo, des articles, des conférences, des interventions dans des bibliothèques, des médiathèques, un peu d'intervention en entreprise déjà, puisque j'avais depuis le début un pied en entreprise, parce que ce monde me plaisait aussi. Depuis le début, j'étais formateur en entreprise, en prise de parole en public, des choses comme ça. Et en fait, là, j'existais en gros comme le prof de philo qui va en entreprise ou qui va ailleurs. Et là, le rapport au monde était incroyablement facile, incroyablement fluide, simple. Les gens ne cherchaient pas à te coincer, à être rival, concurrent. Donc je me suis dit, mais en fait, d'année en année, c'est plutôt les autres qui m'ont renvoyé cette idée que j'étais en fait philosophe. Donc non seulement j'ai mis du temps à accepter même l'idée d'être prof de philo, parce que c'est au bout de 6-7 ans d'études, mais en plus j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée d'être, on va dire, philosophe, même si j'ai encore un peu de mal avec le mot. Pour moi, le philosophe, c'est plutôt Nietzsche ou Hegel que d'autres. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des livres de philosophie, mais doucement, très modestement. Un truc qui s'appelait Une semaine de philosophie, où j'avais pris 7 sujets de disserte et j'en faisais un par jour. Et puis, ça devenait de dissertations scolaires, des petits essais. Et puis, à un moment, des essais plus longs. Et puis, finalement, bah, j'ai accepté ce que le monde me renvoyait.
Ouais.
Et j'ai accepté cette existence là où elle était le plus objectivement reconnue. Et c'était marrant parce qu'en fait, j'ai toujours été hegelien, au sens où mon prof de philo, Bernard Clarté, que j'évoquais, était très hegelien. Et Hegel est un philosophe, non pas de l'intériorité, mais de l'objectivation. Pour Hegel, tu es ce que tu fais, tu es ce que les autres te renvoient comme image, ce que Sartre vulgarisera beaucoup. Même si c'est un peu, parfois, on n'est pas exactement ça, on peut se sentir un peu à l'étroit dans ce costume social, mais quand même, ce que tu fais et ce que les autres te renvoient objectivement, c'est quand même ta valeur. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'au bout de pas mal d'années, je dirais au moins 10, presque 15 ans, je me suis mis à dire, ok, ben voilà, je suis philosophe, je suis essayiste, c'est mon métier, et c'est ça, et puis le reste existe. J'ai continué à faire des romans, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Joie il y a 5 ans, mais c'est presque un plaisir en plus, alors que mon véritable métier se trouve dans la philosophie. Mais il se trouve quand même que mon cœur reste dans la littérature.
Ouais.
Et que, en fait, ce que j'essaye de faire de livre en livre, et là, dans le livre que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus présent, c'est quand même quelque chose de très littéraire. Et là, je suis en train de travailler sur un essai où la langue est vraiment celle d'un romancier. Donc voilà, les deux vont peut-être se rejoindre à terme. Mmh. Avant que je ne sois trop vieux pour avoir l'énergie vitale d'y arriver.
Ok, bon, c'est passionnant.
C'est une réponse un peu longue, désolé.
Non, mais c'est pas grave, on est là pour prendre le temps. Je me demandais, en fait, en t'entendant parler de ça et un peu de cette dualité entre ton amour premier qui était la littérature, ouais, et la philosophie qui t'intéressait, mais qui était peut-être plus perçue, en effet, comme un moyen de travailler.
Ouais, ou même un métier.
Un métier. Ouais. Et est-ce que t'as ressenti quand même une frustration face à cette réalité où, en fait, toi, t'aurais aimé que la littérature marche plus que la philo, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Comment tu acceptes le fait qu'en fait, ok, t'aimes les deux, t'en aimes plus un autre, parce qu'il y a une théorie assez intéressante, ouais, qui revient dans pas mal d'épisodes, et je crois que c'est le deuxième où j'en parle, mais où des personnes que je reçois me disent un peu ce que t'es en train de décrire, où en fait, ce qui marche, c'est ce pourquoi on est fait. Il y a un alignement qui va se faire.
Alors, ouais, je dirais pas ça.
Ok, toi, t'avais toujours cet amour, et si en soi les romans avaient très bien marché, tu t'y serais consacré.
Alors, d'abord, moi, ce que tu dis là, ça fait un peu penser à cette idée de l'étoile intérieure, ce pourquoi je suis fait, ma finalité. Franchement, moi, j'y crois pas trop. Je crois plus en la vie, dans son pouvoir de rectification, de réajustement, de rencontre aussi, encore une fois. Mm. C'est pour ça que j'ai fait ce livre récemment. Tellement je pense ça. Donc moi, je ne pense pas que je sois fait plus pour la philosophie ou la littérature ou gagner de l'argent si j'avais été entrepreneur. Mais en revanche, une fois que tu fais, tu vois si ça te plaît. Mmh. Mais ce n'est pas pour ça qu'autre chose ne t'aurait pas plu autant. Donc ça, c'est pour moi une idée importante. Mais je crois aussi aux vertus de l'échec, en quelque sorte, c'est le titre d'un de mes livres, et je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un sentiment d'échec avec ces deux premiers romans. Et du coup, j'ai bifurqué vers autre chose, et il se trouve que cette autre chose m'a beaucoup plu et m'a rempli de bonheur et de plus de succès et de reconnaissance, mais en fait, peut-être, si j'avais pas bifurqué vers ça, je l'aurais pas rencontré, et ça m'aurait pas manqué pour autant. En fait, je pense que dans un être humain, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités, et ça va dépendre des kairos, des occasions en grec, des rencontres, et puis voilà. Mais c'est un peu réducteur de dire, voilà, je suis fait pour ça, c'est mon étoile intérieure. Je pense qu'en fait, on en a plusieurs, ouais. Carrément.
Donc, ce qui est hyper déculpabilisant aussi, parce qu'en effet, là, ceux qui pensent qu'il y a vraiment ce truc pour lequel t'es fait, ça peut être un peu anxiogène.
Non, c'est pas vrai.
Pour les personnes mais qui nous écoutent et qui ne trouvent pas, quoi.
En fait, c'est faux. Enfin, quand on dit ça, on minimise la vraie vie, c'est-à-dire les aiguillages, les carrefours, les pas de doigts, les bifurcations, et puis bien sûr les rencontres. Et puis d'ailleurs, ça viendrait d'où ? Enfin, ce serait cette chose pour laquelle je suis fait. Elle serait en adéquation avec quoi ? Quoi, mon génome, mon âme, ça va rien dire. En fait, on est beaucoup plus multiple que ça. On est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'ai énormément de plaisir. Parfois à être seul, à écrire, à la campagne, dans une chambre d'hôtel. Et j'ai l'impression d'être fait pour ça, mais sauf qu'au bout de 5 jours, j'en ai marre. Et parfois, je suis dans l'agitation parisienne, je fais des conférences, j'ai le temps de rien, je m'occupe de mes enfants, je vois des amis, j'ai l'impression que le temps passe et que je ne me réalise pas, mais en fait, j'adore aussi ça.
Ouais.
Et puis, je pense que c'est aussi l'alternance intéressante. L'alternance de phases, alors en fonction de son tempérament, ça peut être 6 mois, 6 mois. Moi, j'ai un petit rêve de vie d'être moitié à Paris, je veux dire à l'échelle d'une semaine, par exemple, moitié à Paris, un peu dans une vie sociale aussi familiale. Enfin, ça, c'est quand mes enfants sont un peu plus grands. Et puis, peut-être la moitié à la campagne, à écrire. On n'est pas obligé d'être... Tout le monde dit oui sur son axe aligné, d'accord, mais on peut avoir plusieurs axes. Hein.
Carrément.
Et puis aussi, parfois, c'est assez nourrissant d'être pas si bien aligné que ça. Vous voyez, parce que parfois, on fait des bonnes choses parce qu'on n'est pas exactement à sa place. Et du coup, ça crée une sorte de tension, de désir. Je crois que paradoxalement, si on est trop aligné, on peut rater plein de choses aussi.
Ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation où t'avais l'impression justement que t'étais pas à ta place ?
Oui, bien sûr, quand même, bien sûr, bien sûr. Ça m'est arrivé de faire des conférences dans des endroits où vraiment je me sentais trop en désaccord avec les pratiques et les valeurs. Donc, je le refais pas, mais j'étais plus jeune, j'ai fait certaines erreurs. Ça m'est arrivé, oui, d'associer mon travail de philosophe à certains noms de marques que je citerai pas aujourd'hui, mais... Et en fait, aujourd'hui, je trouve que j'aurais pas dû le faire parce que j'avais juste pas assez réfléchi. Mmh. En fait, moi, comme tu l'entends dans l'entretien, moi, j'aime bien avancer, faire des choses. Et parfois, je fonce un peu sans réfléchir assez, ce qui est dommage pour un philosophe. Mais donc, du coup, avec le temps, voilà, j'ai compris que... Mais encore une fois, c'est souvent l'expérience qui t'enseigne, en fait.
Ouais.
Finalement, il y a des gens sur le papier, ils sont super, ils développent des valeurs humanistes. Et puis, quand tu les vois, que tu bosses avec eux, en fait, c'est un peu fake. Et puis d'autres, ils n'ont pas l'air. Et puis en fait, au quotidien, si. Donc souvent, il faut quand même y aller pour savoir. Voilà, donc c'est un peu pareil. C'est un peu comme ça que j'ai vécu les choses. Et j'ai aussi eu des très, très belles rencontres à l'occasion de conférences.
Ouais.
Des gens que je vois souvent. Donc voilà, j'ai des très belles rencontres de tout type. Par exemple, quand j'ai fait de la philosophie dans la prison de la santé, j'ai adoré faire ça. Mais aussi, quand j'ai travaillé pour Chanel, j'ai adoré. Et ça a été un truc de long terme. On s'est vu pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, j'aime bien quand même tenter des choses et puis au contact de la rencontre, voir ce que ça m'apprend. Et puis voilà, on ne peut pas tout savoir avant d'y aller, quoi.
Pour parler un peu de cet échec que tu as rencontré ou que tu as vécu comme tel au début de ta carrière, ouais. Je pense qu'en plus, en début de carrière, c'est particulièrement marquant. Ça peut être paralysant. Enfin, je pense à un ami qui est un peu en train de vivre cette phase et où en fait, ça peut... te toucher vraiment au plus profond de ton être, voire t'empêcher d'avoir envie de recommencer. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Peut-être quels conseils tu donnerais aux personnes qui sont peut-être dans cette situation
Très bonne question.
Et qui voilà, qui n'ont pas envie de se laisser bloquer par ça, parce que ça peut un peu traumatiser dans le sens où après ça te donne plus envie de réessayer quoi que ce soit.
Bien sûr. D'abord, premier conseil, un conseil qui peut te surprendre. Ce sentiment d'échec, d'abord, chéris-le. Avant de vouloir le combattre ou de le fuir, comme beaucoup qui sont dans le déni, il faut le chérir. En l'occurrence, dans mon cas, en fait, je vais essayer de dire ça sans être mégalo, mais en vérité, le livre a un peu marché, j'avais une très bonne critique, je me suis fait repérer, j'aurais dû être content. En fait, j'avais un très fort sentiment d'échec parce que j'avais pété un câble, en gros, parce que je m'imaginais tout de suite traduit dans le monde entier, parce que j'étais complètement mégalo, quoi. Et parce que j'étais jeune, et parce que j'avais aussi renoncé à plein de choses pour me donner la chance d'écrire, donc j'en attendais beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que ce sentiment d'échec, dans mon cas, j'en ris aujourd'hui, je confesse avoir été presque trop arrogant, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant, parce que pour le coup, il dit quelque chose de ton ambition, et il dit quelque chose de ce qui compte pour toi. C'est comme, il y a des gens, voilà, ils divorcent et ils sont très très tristes et tout le monde leur dit, mais non, mais tu devrais pas, il y a deux couples sur trois à Paris divorcent ou ailleurs, ou un couple sur deux en France. Et donc c'est comme si ça délégitimait le sentiment d'échec. Je trouve que c'est pas bien, parce que ce sentiment d'échec, il faut au contraire l'accueillir et essayer de l'analyser et d'entendre ce qu'il te dit de ce qui compte pour toi. Donc premier conseil, bavez-en un peu, mais au moins, comprenez de quoi ce sentiment d'échec parle. Parce que parfois, il nous dit quelque chose d'un rêve déçu. Parfois, il nous dit qu'en fait, on a tenté quelque chose qui n'était pas fait pour soi, on n'aurait pas dû. Et il faut l'accueillir. Alors que souvent, on a envie de passer. On est invité par les autres à passer à autre chose. Donc, premier conseil, accueillez ce sentiment d'échec et entendez ce qu'il a à vous dire. Deuxième conseil, souvent, cet échec est plus facile à accueillir quand on comprend combien il dit que nous avons osé quelque chose. Donc le voir comme la preuve rétroactive qu'il y a eu de l'audace, ça c'est vraiment une des thèses de mon livre « Les vertus de l'échec », et non pas comme quelque chose qui me stigmatise ou m'humilie, etc. Et on rejoint un conseil, qui est un conseil de psychologie de base, qui est que voilà, un échec, c'est pas mon échec à moi, c'est pas l'échec de ma personne, c'est pas l'échec de mon moi tout entier, c'est l'échec de mon projet, de mon initiative, de mon aventure, de mon travail. Mais ça c'est très important psychologiquement, de faire la part des choses, et de ne pas s'identifier à son échec. Je donnerai le même conseil dans le succès. Hein.
Ouais, mais alors je trouve ça... Pardon, je t'interromps, mais c'est, je trouve que c'est quand même vachement plus facile à dire qu'à faire. Enfin, dans le sens où... Bon, moi, par exemple, j'en ai conscience.
Ouais.
Mais dans les faits, je sais qu'à chaque fois que je vais rencontrer une forme d'échec, c'est un désaveu total de ma personne. Enfin, tu vois, et parfois j'ai l'impression que c'est tellement lié à notre enfance, notre éducation, notre moi, tu vois, qu'en avoir conscience... C'est pas forcément suffisant, tu vois, donc je sais pas.
Il y a un argument, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais je suis d'accord que c'est dur. D'abord, il y a des thérapies pour ça, quand ça va pas bien. Donc déjà, il y a des psys, des coachs, c'est leur métier. Là, je parle pas de la psychanalyse, que par ailleurs, je défends beaucoup par ailleurs, mais là, je parle pas de ça. Je parle plutôt d'une méthode de thérapie brève, un peu comportementaliste, où en fait, c'est carrément fait pour ça. Ensuite, il y a une méthode philosophique plus l'artillerie lourde. C'est que, et ça marche parfois, moi je l'ai déjà fait avec des élèves et ça a bien marché, c'est que quand l'élève se sent nul, parce que c'est ça que tu évoques, quand la personne se sent nulle, il faut lui expliquer qu'en fait, elle n'existe pas en tant que personne. C'est-à-dire que quand on se sent nul, on a l'impression qu'on a une essence en soi, que sa vérité propre, son noyau, on pourrait dire, ou son noyau, quoi, sa monade intérieure, qui est entachée de nullité. Mais alors, il y a une artillerie lourde en philo, c'est de dire avec Sartre ou d'autres, en fait, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'essence. C'est un leurre. Il y a juste plein de choses différentes en soi. Des talents, des facultés, des dimensions. Mais il n'y a pas... Quand tu te vois dans la glace le matin, tu ne vois pas ton essence. Donc comment elle pourrait être entachée de nullité si elle n'existe pas? Et là, il faut faire un petit peu de philo. Là, on n'a pas le temps tout de suite dans ce podcast, mais il faudrait prendre juste 40 minutes. Et en 40 minutes, on peut expliquer à cette personne qu'elle ne peut pas être nulle parce qu'elle n'est pas. Elle ne fait que devenir... C'est-à-dire changer, s'amender, se rectifier, rebondir, bifurquer. Et du coup, elle ne peut pas être nulle. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un déclic mental où je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai. OK, là, j'ai raté. Mais si ça se trouve, ce ratage va me faire des choses que je n'aurais jamais envisagées et qui vont être le lieu de mon succès. Et ça, c'est un travail, franchement, qu'on fait assez facilement.
Ouais.
Et puis, j'ai un troisième conseil. C'est quand même de se dire... que c'est ultra, au fond, arrogant, quoi.
Ouais.
D'avoir
attendu quelque chose, comme si on aurait mérité...
On peut juste avoir un peu d'humilité Et tout le monde se plante tout le temps. C'est-à-dire, tout le monde se plante tout le temps. Moi, quand on écrit des livres, on le sait. Moi, j'ai écrit pas mal de livres qui ont été des énormes bides. Enfin, je veux dire, personne ne les a lus. Il n'y a pas eu de critique. J'ai bossé 2 ans sur un livre qui a été un fiasco, quoi. Pas de traduction, pas de lecteur français, presque pas de presse. Ben, en fait, c'est normal, quoi, dans une vie d'auteur. Moi, maintenant, j'ai écrit 15 livres. C'est normal qu'ils ne marchent pas tous, quoi. Mmh. Et parfois, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'il y a plein de paramètres. Il y a le hasard, la rencontre du public, le moment, le Covid. Donc c'est quand même très arrogant de mal le prendre. Parce que ça veut dire qu'implicitement, on se dit, en fait, tout dépend de moi. Donc voilà, soyons un peu stoïciens. Il y a des choses qui dépendent de moi, faire au mieux. Et puis il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Et parfois, eh ben, l'échec ne dépend pas de moi.
Alors là, je vais aussi poser une
question. Juste un truc avant de...
Ah ouais, ok, vas-y. Oui,
c'est aussi important de se dire, parce que ce qui fait mal, c'est de se dire c'est injuste.
Ouais.
Ça aussi, ça fait mal. De dire, c'est injuste, j'ai bossé, et puis lui, il est nul, il a réussi, et moi, j'ai bossé, c'est injuste. Alors ça, c'est un autre problème qui est très important. C'est qu'en fait, la vie est injuste. Le réel est injuste. Cette idée de la justice, c'est un fantasme humain qui tombe de... On sait à peu près d'où, mais peu importe. Et ça fait vachement de bien de se dire, en fait, ok, je me suis planté, c'est désagréable, mais je vais pas en plus ajouter le sentiment de l'injustice à l'échec qu'il faut déjà que je mange et que je me prenne en pleine face. Et ça, c'est très beau. Et ça donne des ailes aux gens, j'ai remarqué. En fait, mais arrête de réclamer une justice. Il n'y a pas de justice. C'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils vont avoir un cancer très jeune alors qu'ils n'ont pas fumé. D'autres vont fumer toute leur vie et jamais avoir de cancer du poumon. Pourquoi veux-tu que le réel soit juste? Et ça peut faire du bien. Mmh. Parce que la personne qui entend ça, elle se dit, mais ouais, en fait, c'est vrai. Je vais arrêter de pleurnicher et je vais aller de l'avant et je vais passer à autre chose, en fait.
Mmh. C'est vrai.
Je t'ai interrompu, excuse-moi.
Ah non, mais il n'y a pas de souci, j'arrive à garder en tête ce que je voulais aborder. Il y a deux sujets. Ce que tu dis, le côté « tout dépend de moi », je pense qu'on est peut-être plusieurs dans ce cas, en tout cas, moi je sais que c'est mon cas, à en effet avoir ce sentiment que si je le fais assez, ça peut advenir, et que du coup, si ça n'advient pas, c'est que c'est de ma responsabilité. Et est-ce que toi, tu as peut-être déjà été comme ça, ou quel conseil tu aurais à donner? Je ne sais pas s'il y a aussi des concepts philosophiques pour relâcher un peu ce besoin de contrôle qui ne sert franchement personne.
Clairement. Alors moi, dans mon dernier livre, j'ai un chapitre entier là-dessus.
Okay.
C'est le livre sur la rencontre, et c'est la deuxième partie où je donne une sorte de méthode. Et dans cette méthode, il y a exactement la réponse à cette question. C'est-à-dire, il faut être capable de vouloir, donc d'avoir des efforts insistants en vue d'un but, mais d'avoir un relâchement une fois qu'on a fait l'effort, et c'est très compliqué, parce que soit on est volontariste et on veut, et quand tu veux, tu peux, soit on fait du lâcher-prise, on attend, on est zen. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre, nous, les Occidentaux, qu'on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire, pour essayer de résumer, mais franchement, il faut lire ce chapitre du livre, parce qu'il raconte exactement ça, mais si j'essaie de résumer... C'est comme quelqu'un qui bosse à fond et qui dit « mais au fond, je m'en fous ». Est-ce que de dire « au fond, je m'en fous », ça empêche de bosser à fond? Non. C'est une sagesse intérieure qui fait que voilà, ok, j'ai un partiel, j'ai un rendez-vous, je sais pas, et que je suis capable de mettre l'ensemble de mes forces dans la direction de ce but, tout en sachant qu'il y a autre chose dans la vie, que finalement... Il n'y a pas mort d'homme et qu'il y a surtout des choses plus intéressantes. Ça, c'est un exemple, c'est ce que j'appelle la volonté relâchée ou le relâchement volontaire. Et ça veut dire aussi que je peux viser avec volonté et me dire, quand j'ai fait mon maximum, je me mets en état de disponibilité par rapport à ce qui peut advenir, mais qui n'est pas ce que je recherchais. Parce que bien souvent, les choses qu'on réussit, elles ne viennent pas de l'effort insistant de notre volonté en vue d'un but. Elles viennent du fait qu'on a su saisir une opportunité qui n'était pas prévue et qui a pointé son nez comme ça par hasard. Mais le problème, c'est que si on est trop volontariste, on ne la verra pas. Mmh. Si on est trop focalisé sur l'objectif, sur le target, là, on ne verra même pas l'occasion qui se présente. C'est comme il y a plein de situations où en fait, de trop viser le but fait qu'on n'est pas disponible à ce qui nous permettrait d'atteindre d'autres buts. Et ça, c'est ce que j'appelle dans ce livre la disponibilité. Et ça se travaille. La chance, on va la chercher par un effort de la volonté. Mais on ne fait que la provoquer, et après on glisse comme ça, on switch d'état, et on se met dans un état de disponibilité par rapport à l'imprévu. Ça veut dire aussi savoir qu'on ne peut pas tout prévoir, mais ça n'empêche pas de prévoir le maximum. Simplement, il y a deux façons de prévoir au maximum. Soit je prévois au maximum en m'illusionnant et en pensant que tout est prévisible, soit je prévois au maximum tout en sachant qu'il y aura de l'imprévu. Et bien c'est pas du tout contradictoire, c'est même l'intelligence minimale de se dire voilà, j'anticipe, mais je sais qu'il y aura de l'imprévu. Ben, je crois que ça, c'est une bonne attitude. Alors, pour être honnête, dans mon livre, j'ai essayé de trouver un concept et de l'inventer, et je ne l'ai pas trouvé. Je voulais trouver ce néologisme. Putain, j'ai cherché des mois, j'en ai parlé à tout le monde et tout, et je n'ai pas trouvé. Donc, si vous lisez le livre, il manque...
Le mot derrière ça.
Il manque le mot. Ouais. J'ai pensé à volonté flex.
Volonté flexible.
Ouais, j'ai tous ces trucs-là. J'ai pas trouvé, ça m'énerve encore.
Ouais. Ah mais je comprends, parce que moi je cherche désespérément une traduction au terme empowerment, parce que j'écris aussi un livre sur l'empowerment des femmes.
Tu as lu ce livre ?
Non, pas encore. Je suis en fin de rédaction, mais alors je te comprends vachement sur le côté aimer écrire à la campagne. Je crois à Paris, c'est très difficile.
Ouais,
mais j'en ai parlé à ma communauté. Il y a eu des tu vois, empuissancement et tout, mais voilà, il y a pas de, parfois ça vient pas, mais bon, c'est peut-être
déjà,
ça aussi à l'accepter.
Alors en français c'est pire.
Oui, mais je trouve qu'en anglais il est significatif.
Disons qu'on comprend. On comprend ce qu'il dit et il y a pas de malentendu.
Mais voilà, empuissancement pas du tout.
Empuissancement avec l'allitération S faut éviter.
Ouais, mais donc bon, la question est ouverte. S'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui trouvent après la lecture de ton livre un nom, voilà, ils t'enverront un mail.
Alors je vais faire un brief plus précis.
Alors fais un brief, vas-y, passe ton annonce.
Vous lisez La rencontre, une philosophie, le chapitre 2, et vous me trouvez le concept que je n'ai pas trouvé. Vous me l'envoyez sur Instagram et je vous offrirai quelque chose en retour. Je ne sais pas quoi, mais je trouverai.
Voilà.
Je paierai ma dette.
c'est lancé. Bah, par rapport à tout ce que tu viens de dire, que je trouve passionnant et qui, je pense, s'applique à la majorité d'entre nous, je ne sais pas pourquoi j'ai automatiquement pensé aux sportifs de haut niveau.
Ouais.
Va dire aux sportifs de haut niveau, donne-toi à fond. Par contre, le résultat, écoute... c'est un bonus. En fait,
non,
moi,
c'est pas ça que je dis. Je dis pas le résultat est un bonus. Le résultat, on le vise. Mais si, il y a plein de sportifs qui comprennent. Hein. C'est tu te donnes à fond, mais tu peux avoir des points d'ancrage dans le réel qui sont pas que ta volonté. Par exemple, ça reviendrait à dire à un champion de tennis, pour le money time, le moment hyper dur, c'est-à-dire là où les Français sont mauvais, en fait, tu veux gagner, mais quand tu as une balle de match contre Federer... Bah, si tu veux gagner trop fort, ça ne suffira pas. Parce que lui, il va hausser son niveau de jeu à ce moment-là. Lui, il a l'avantage psychologique, parce qu'il t'a déjà battu 12 fois sur 13. Donc si tu veux juste le battre, tu as tellement de pression, parce que tu es à un point du Graal, et lui, il va tellement hausser son niveau de jeu maintenant, et c'est ce qu'il sait faire, que tu n'as aucune chance de gagner le point si tu es juste en train de vouloir gagner. Du coup, il faut décaler le truc. En disant, par exemple, tu vas essayer de jouer de faire le point le plus beau. Pas nécessairement pour gagner, pour atteindre une forme d'esthétique. Ou alors, tu vas t'accrocher à la sensation, à la sensualité. Qu'est-ce que ça... te concentrer sur les cordes qui frottent la balle. Comme ça, on ne pense pas simplement à vouloir gagner. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui a été inaugurée, enfin, pas inaugurée,
évidemment,
qui a été vulgarisée par Agassi dans son livre Open, où il raconte qu'en fait, Agassi, il avait les cheveux longs, blonds, décolorés, mais en fait, c'était une perruque. Personne ne le savait. Et elle tenait très bien, parce qu'il était chauve. Et il raconte que sa manière de se détendre, de déplacer l'attention dans les balles de match, c'est de se concentrer sur sa perruque en disant « je vais perdre ma perruque ». Comme ça, il ne pensait pas au schéma de jeu et jouait hyper relâché. Et en effet, Agassi, il était hallucinant sur les balles de match. Il faisait des coups de génie, comme un mec qui s'entraîne et qui n'a pas compris que c'est la balle de match. Parce qu'en fait, il pensait à sa perruque. Donc c'est exactement la méthode que j'évoque. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il a envie de gagner, il construit toute sa vie pour gagner. Mais ça n'empêche pas de trouver des points comme ça de relâchement intérieur. Soit en pensant, je sais pas, à une belle nuit d'amour qu'on a eue il n'y a pas longtemps, soit en pensant au bruit de la balle, soit en pensant à la beauté, soit en pensant aussi à des choses tristes éventuellement. On a pu perdre quelqu'un qu'on aime. Et je ne suis pas sûr que ça fasse déjouer.
Donc en fait,
mais en tout cas, je comprends ton soupçon, puisque j'ai bossé un peu avec la Fédération Française de Tennis, et ils n'ont pas du tout, accepté d'aller dans ce sens.
C'est un peu la mentalité, mais dont on peut parler. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vrai problème de société que j'aborde dans certains de mes podcasts, mais les invités sont pas forcément aussi experts que toi en la matière, qui est la hustle culture, tu vois. Désolé pour les anglicismes, mais là il est pareil. Tu vois pas le hustle culture?
Si, ça veut dire tu te fous.
La culture de la surproductivité,
ouais,
tu vois,
sûr, ouais.
Dans laquelle on vit carrément. Je pense qu'il y a aussi ce côté où aujourd'hui. C'est même pas que les gens veulent gagner ou qu'ils sont blessés si jamais ils échouent, c'est que vraiment en fait c'est là-dessus qu'on fait reposer la valeur des gens en fait, et du coup ça devient vraiment une espèce de sens de notre vie. Enfin,
oui, mais en même temps, dans la même époque, t'as des invitations au lâcher prise, au bouddhisme.
Bah, qui est un peu le contre-coup,
voilà.
En
fait, je pense qu'il faudrait repenser la chose en disant on n'est pas soit un bourrin volontariste, soit un cliché qui veut tout lâcher et qui veut juste accueillir l'instant présent en lisant ce pitoyable livre Le pouvoir du moment présent.
De Descartes Tolé,
qui est un livre dont j'aurais pas bien à comprendre le succès, parce que quand je le lis, j'y essaie à chaque fois, je vois rien dedans.
Et alors, si on peut en parler un petit peu, parce que bon, moi je suis en pleine réflexion par rapport à ça, parce que d'un côté, j'aspire à être plus dans le moment présent.
Non, mais moi aussi,
d'un
autre
côté, tu connais Fabrice Midal, j'imagine.
Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup parlé de ça avec
lui. Lui, il dit c'est une aberration, on s'en fout du moment présent, en soi, on peut très bien être heureux en pensant au passé ou à l'avenir. Et du coup, depuis qu'il m'a dit ça, je réfléchis un peu à la chose et je me dis, bon, c'est en effet, c'est bon, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des réflexions, mais ton avis là-dessus m'intéresse.
Bah
quoi,
oui,
pourquoi on est autant invité à être dans le moment présent aujourd'hui?
C'est une très bonne question.
Aujourd'hui.
C'est une très bonne question. D'abord, je comprends très bien ce que beaucoup de monde trouve dans cette idée et dans le livre Descartes Tolé. J'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure. C'est vrai que quand tu as beaucoup souffert, que tu as un trauma par exemple, que tu es hanté par des blessures du passé ou des injustices, qu'un livre puisse t'aider à être dans le moment présent, donc à être un peu libéré de la morsure du passé et de la douleur, évidemment, je trouve ça très bien. Ça, c'est un petit bémol. Mais au fond, ce que je pense en tant que philosophe, c'est qu'il n'y a pas de pur présent. Parce que, par exemple, la perception au présent, là, le vert que je perçois au présent, la couleur que je vois, là, les couleurs, toutes ces formes que je vois sur ces tableaux, ce siège un peu 70s, en fait, cette perception, elle est complètement conditionnée par mes souvenirs. Elle se fait sur un lit de souvenirs. Donc même ma perception sensuelle du présent, là, j'ai parlé de ce que je vois, du bois que je touche, mais c'est a fortiori vrai. Par exemple, quand on touche quelqu'un, quand on caresse quelqu'un, quand on fait l'amour, quand on boit du vin, en fait, il n'y a pas de pur présent. Tout ça n'existe que parce qu'il y a une histoire de la sensibilité, une éducation de la sensibilité, plein de souvenirs. Il y a une très belle phrase de Bergson qui dit « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs ». Donc déjà, le passé est dans le présent. Et ensuite, on est bien sûr en train de penser à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments un peu de grâce comme ça. On est très présent quand on est avec quelqu'un, quand on parle, quand on contemple la beauté, quand on est en train de nager dans la mer. Évidemment qu'il y en a. Mais pourquoi penser que cette pleine présence exigerait qu'il n'y ait pas de passé et pas d'avenir? On peut par exemple être dans une belle présence et puis soudain on a des images du passé qui reviennent, puis elles s'en vont et on reste présent. Ou même, on a un peu un retour à la présence qui est intensifié parce qu'on s'est un peu éloigné dans le passé. Ou alors, on peut être très bien avec quelqu'un, et puis, en fait, il y a un moment, on pense à ce qu'on va faire plus tard. Et ça nous divertit, et puis l'instant d'après, on revient. Ben, notre époque a l'air de dire que c'est pas bien, il faudrait être complètement concentré. Il y a des gens qui vous obligent à les regarder dans les yeux sans bouger, mais c'est un peu flippant. On a le droit de flotter un petit peu. C'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas de présence humaine qui ne soit pas comme ça traversé par un peu d'absence, de passé, de futur. Mais c'est ça, la vie, on n'est pas des animaux, en fait. Je pense que l'animal, lui, il est plus au présent. Hein.
Oui, c'est
justement
sûr.
Justement. Mais encore une fois, je trouve qu'une vraie vie humaine, c'est une vie dans laquelle s'articule passé, présent, avenir, avec beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs, beaucoup de projets, d'anticipation, mais qu'il faut des instants rares, comme des parenthèses dans ce texte, et des instants rares de pleine présence, évidemment. Mais il ne faut pas en faire une éthique de vie. Il ne faut pas en faire un but de vie. De toute façon, il y a des moments où la vie nous cueille. Et voilà, on est pris, on est attrapé par la vie, on est au présent. Quand une musique nous plaît, quand il y a une scène de film incroyable, quand on a un élan d'amour pour quelqu'un qui est là, qui est en face de soi, ben voilà, ça, la vie suffit. Hein. On n'a pas besoin d'écrire des livres et de faire des séances de méditation pour apprendre à être présent. Je trouve ça grotesque, en fait.
Bah, je pense que c'est... Enfin, j'entends totalement ce que tu dis. Ça va aussi, je pense, décomplexer pas mal de personnes. Mais je pense que c'est peut-être nécessaire qu'il y ait ce contre-coup, parce que c'est vrai que moi, je vois quand même des personnes autour de moi se perdre, être happées par l'après, le... Enfin, tu vois, il y a un peu ce toujours plus.
Non, mais t'as raison.
En fait, après quoi les gens courent, tu vois? Il y a un côté où...
En fait, t'as raison. Je suis d'accord.
Il se pose la question, à mon avis, de...
Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la représentation, dans l'obsession comme ça du futur, dans la hâte, dans l'impatience, on a besoin de ça, je suis d'accord. Donc moi, je suis pour, évidemment, la méditation, le yoga, évidemment. Mais il ne faut pas ensuite... je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des tonnes pour expliquer que le moment présent existe. C'est presque ridicule, en fait.
Ouais.
C'est juste ça que je veux dire. Et puis, il suffit d'être un peu attentif. Bah voilà, si tu prends un verre avec des gens que t'aimes bien, bah arrête de regarder tes mails et tes notifications tout le temps. Effectivement, c'est un bon conseil, mais est-ce qu'il y a besoin d'en parler des heures, quoi ?
Ouais, ouais.
L'attention à l'autre, l'attention à ce qui est beau dans la vie, même si on a un animal, quoi, d'être un peu présent, de regarder l'animal qui est chez soi, de regarder le ciel, quand on est... c'est ça, le présent. Mais la vie nous offre plein de moments de présent. Et ils sont très beaux, évidemment. Mais simplement, même s'ils sont importants, s'ils nous nourrissent, parfois ils nous sauvent de la souffrance, et comme tu l'as dit, de trop d'affairement, pour autant, une vraie vie humaine, ça n'est pas ça. Ça, c'est juste des parenthèses. Une vraie vie humaine, c'est une vie où les hommes civilisés que nous sommes avons de la mémoire et essayons d'inventer un avenir et de faire un monde meilleur pour demain en essayant de métamorphoser tout ce dont nous héritons en une force de créativité pour l'avenir. Voilà, nous existons dans le temps, nous sommes des animaux historiques. Et c'est ça notre grandeur.
Alors ça va être très... On va passer du coq à l'âne, mais tu parles de justement... cet avenir et le côté qu'on peut utiliser la créativité du passé pour l'avenir.
Ouais.
Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui bloque pas mal de gens dans le fait d'essayer d'oser, de peut-être construire ce monde de demain, c'est de se détacher du regard des autres. Ouais. Je crois que t'en parles, je sais pas si c'est dans les vertus de l'échec, mais il me semble avoir lu pas mal des articles que t'as écrits à ce sujet. Pareil, quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont ces idées, qui ont ces envies, mais qui sont un peu pétries par le côté, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je vais faire ? Ouais.
Non, mais je crois que c'est un sujet important que toi, tu le développes aussi beaucoup.
Ouais.
Sur ton Insta, avec tes habits notamment. Ouais, c'est ça l'idée.
Alors, entre autres, ouais. Mais le côté, dans tous les cas, on va être jugé pour ce qu'on fait, donc non, autant faire ce qu'on veut.
C'est vrai que là, toi, tu es habillé en jaune et vert.
Et vert.
J'aurais dit orange, mais il y a la table, avec des bagues orange et tout. Et c'est vrai que, par exemple, peu de personnes s'habillent comme ça.
Ouais.
C'est d'ailleurs, à Londres, plein de gens s'habillent comme ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus normé. Donc j'imagine que c'est un truc qui te parle aussi, que tu travailles ça. Et je trouve ça très bien. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que, paradoxalement, je pense que le regard des autres est vraiment important et qu'on ne peut pas vivre sans. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne te dit pas la vérité. Mais il te dit une information très importante. Et donc, ça, c'est toute la philosophie hegelienne, sartrienne que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas se dire « je me fiche de ce que les autres pensent », complètement. Parce que ce n'est pas possible, l'être humain se regarde tout le temps dans le miroir des yeux des autres, cherche la reconnaissance. Hegel disait que c'est le désir humain le plus important, le plus naturel, le plus primordial. Alors comment on fait ? Eh bien, Sartre nous a donné quelque chose de magnifique. Il a dit « voilà, le regard des autres te renvoie des informations importantes pour construire ta liberté ». Mais tu dois savoir qu'en même temps, il t'aliène, te réduit, te diminue. Mais si tu le sais, tu peux t'en servir, en quelque sorte. Donc moi, j'aime bien cette idée. Et puis, je pense qu'il y a aussi, chez l'animal humain, un narcissisme primordial dont on ne pourra jamais se défaire complètement. Donc, si toi, tu me dis « j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres », en fait, je ne le crois pas. Je pense que ce n'est pas vrai. En revanche, que tu aies de la liberté par rapport à ça, ça oui. Que tu ne détermines pas tes choix vestimentaires ou de vie ou de façon de parler par ça, oui, mais que tu n'en aies rien à faire, non. Et donc ça veut dire qu'on doit penser qu'on se construit dans l'intersubjectivité, que c'est normal d'avoir envie de plaire, mais qu'il faut pas, il faut que ce soit le lieu d'une invention de soi et pas d'un enfermement. Alors évidemment, quand on est jeune, ado, qu'il y a le poids du conformisme, les réseaux sociaux, etc., c'est un enfer, évidemment. Dans ce cas, il faut avoir un propos plus simple par rapport aux gens de 15-16 ans. Il faut plutôt leur dire, cherche à ce qui, toi, te plaît, cherche là où, toi, tu te retrouves, comment tu te sens beau, belle, et après, tu verras le regard des autres.
Mais ça, c'est tellement conditionné par ce qu'ils voient, ce qu'ils disent.
Oui, puis il faut quand même accepter qu'à chaque âge, il y a une forme de sagesse différente. Je veux dire, l'adolescent, il est conformiste. Pour plein de raisons. On ne va pas le changer. Donc, il faut avoir un discours un peu adapté. Avec un ado, on va dire, OK, vous allez tous avoir le même sac, la même rentrée, le même suite, OK. Maintenant, sache que c'est un peu bête, que c'est un troupeau, et essaye de t'inventer. Bon, voilà. Mais par contre, quand on parle à quelqu'un qui a 21 ans, 22 ans, et a fortiori 30 ans, là, c'est différent. Là, il faut essayer de tenir les deux maillons de la chaîne. Un maillon qui est de dire, en fait, ce qui va me rendre heureux et ce qui va me donner une belle vie, c'est ma singularité, que j'ose ma singularité, que je l'invente, Mais je crois que c'est une erreur d'un romantisme un peu immature de se dire « je m'en fiche de ce que les autres pensent ». Ça, c'est ce que disaient les romantiques. Ils disaient « mais moi, ce qui compte, c'est l'intériorité. Ce que vous voyez, ça compte pas. » Mais dans ce cas, par exemple, si on est un artiste, c'est un problème. Parce que si je suis un artiste et que je dis voilà, à mes parents « j'arrête les études parce que je suis un artiste, mais que je ne fais pas d'œuvres, que je ne les montre pas, que j'ai pas de public, que j'ai pas de spectateurs, que je fais pas de vernissage, que j'ai pas de galeriste, ben en fait, je suis pas un artiste. » Donc il y a bien un moment où j'ai besoin de l'objectivité de ce que les autres vont me renvoyer. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça. On a quand même commencé l'entretien. Moi, j'ai expliqué que finalement, je suis allé dans une direction en prenant appui sur ce que les autres me renvoyaient, quand même, le regard des autres.
Oui, ce qui, dans ton cas, a super bien marché. Mais parfois, je trouve que ça peut être un piège, notamment si c'est la pression de la famille ou si c'est... Enfin, tu vois, moi, on m'a répété, je te vois grave avocate. Oui. Voilà, bon, je suis pas sûre du tout que je sois faite pour le droit, tu vois. Donc, c'est aussi savoir faire la différence entre ce que les autres projettent sur nous et pensent qu'on est compétent et épanoui.
Je suis d'accord, Louise.
Et ce qui nous parle.
Je suis entièrement d'accord. Mais cette invitation que tu exprimes à t'écouter, elle ne se fait pas toute seule. Tu ne peux pas bien t'écouter si tu ne parles pas à quelqu'un, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des psychanalystes, ou des amis, ou des coachs. Donc là encore, évidemment qu'il faut t'écouter, ne pas suivre, ne pas te plier à ce qu'on veut que tu deviennes. Oui, mais ça ne se fait pas dans la solitude. Mm-hmm. Ça ne se fait pas dans l'introspection. Ça se fait, encore une fois, c'est la thèse de mon dernier livre, dans la rencontre du monde, mm-hmm. dans la rencontre des autres, mais des bons autres. Pas les autres qui veulent vouloir te faire te fondre dans le troupeau, mais ceux qui vont t'écouter et avec lesquels tu vas avoir un bon brainstorming, un bon échange, une bonne maïeutique. Et souvent, on découvre son vrai désir en parlant à quelqu'un. Moi, par exemple, les livres que j'ai faits qui ont été les plus fidèles à ce que je suis, en fait, l'idée est venue en parlant à mon éditeur qui est mon meilleur ami. Mais je n'étais pas tout seul. Et c'est, donc, du coup, c'est compliqué. On peut pas, faut pas être caricatural. C'est pas parce qu'il y a un danger de la pression sociale, conformiste, etc., qu'il faut tomber dans l'excès inverse, de dire, seul moi, je sais, tout seul.
Non, de toute façon, ça serait purement égoïste aussi. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est plus de prendre du recul dans une société où l'excès est inverse, quoi, où c'est on se soucie trop
exactement.
De ce que les gens pensent.
Et justement, pour prendre du recul, je crois, c'est très, très bien dit ce que tu dis, qu'il faut se détourner un peu des groupes comme ça, un peu grégaires, des bulles d'entre-soi, pour aller vers les bons autres. C'est-à-dire... peut-être un parent, si tu as une belle relation avec lui, un psy, un ami ou une amie qui va te parler un peu vrai, cash, qui va s'intéresser à ton talent et pas simplement à ce que lui peut en retirer. Donc voilà, aller voir les bons autres et se détourner des mauvais autres. Ça, c'est un petit conseil, je trouve.
Ouais.
Et peut-être se poser la question, en fait.
Ouais, c'est un peu se détacher. J'en parle aussi de se détacher des personnes toxiques, mais qui sont parfois dures à identifier. Mais bon, c'est savoir, au final, si cette personne veut votre bien-être, votre bonheur ou pas. Si on est honnête avec soi-même, généralement, on s'en rend compte.
Oui, c'est pas... Alors, c'est dur à identifier quand on est en plein dans une relation toxique, évidemment. Mais comme je l'explique dans le livre sur la rencontre, parce qu'il y a plein de rencontres toxiques quand on est dans le sujet, il y a quand même des signes assez clairs.
Ah si tu peux les partager.
Ouais, quand tu ne vois plus tes amis, quand cette personne, comme par hasard, va toujours dans le sens où elle te coupe de tes amis, quand tu as moins de joie de vivre, quand tu arrêtes de faire des activités qui avant t'apportaient du plaisir, quand la personne te dévalorise, quand tu ne te sens pas beau ou belle dans ses yeux, donc ça fait 5 points là. Si ces 5 points sont réunis, je crois qu'on peut être clair, il faut se casser, quoi. Il faut casser la relation et se casser. Donc c'est pas si... Finalement, c'est assez objectif. Et ça, c'est aussi le critère hegelien. Quand on est hegelien, on pense que les choses manifestent des effets qui sont objectivement faciles à lire. Donc du coup, une belle rencontre, ça se voit au sens hegelien, parce que ça agrandit ta puissance d'exister, ça agrandit ton rapport au monde et ta joie de vivre. Et une rencontre toxique, ça se voit aussi parce que tu es coupé de tes amitiés, de tes goûts, de ton plaisir, de ta joie de vivre. Et donc finalement, tout ça n'est pas romantique. Toi, le romantique, c'est l'intériorité. Là, on va regarder ce qui se passe et ce qu'une rencontre, ce qu'une relation produit comme effet palpable, mesurable, observable dans le réel. Et là, la personne va dire « Mais non, mais je sais, on dirait ça, mais en fait, je suis heureuse. » Ben non, en fait. Ben non, si concrètement tu ne fais plus les choses qui te rendaient heureuse, si concrètement tu ne vois plus les gens qui te rendaient heureux, si concrètement tu as des symptômes physiques qui... en fait, c'est objectif, quoi, finalement.
C'est vrai, et c'est parfois plus facile de regarder ces signes-là que de s'écouter soi, parce qu'on n'est pas objectif forcément avec soi-même quand c'est quelqu'un qu'on aime. Je me demande, de toutes ces années de philosophie, d'apprentissage que tu as vécu, quel a été, c'est peut-être assez ambitieux comme question, mais le plus grand enseignement que tu en as retiré, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, que tu aurais peut-être, peut-être aimé réaliser plus tôt ou en prendre conscience plus tôt?
C'est une super question. Si, c'est marrant parce que je n'avais jamais pensé à ça comme ça, mais je pense que le plus bel enseignement, en fait, je l'ai tout de suite compris, c'est que ça met en joie de penser. En fait, c'est ça l'enseignement. Ce n'est pas tellement sur un sujet précis, c'est juste qu'en fait, le simple fait de penser, quoi, de réfléchir, et donc d'avoir un esprit critique, un esprit libre, est une incroyable source de joie. Je crois que c'est ça qui se dégage. Et en fait, ça, j'ai découvert en terminale, avec ce prof qui m'a mis des claques, parce qu'il m'a renvoyé mon milieu social, ce qu'il croyait, il m'a renvoyé à ce que j'étais, je me suis pris une claque, quoi. Et en fait, j'ai découvert que comme ça, quand on réfléchit, on fait des objections, on lit, on se pose des questions, en fait, c'est juste pas que cérébral. Mmh. On est vivant dans son corps, on a plus de joie de vivre, c'est ça l'enseignement, en fait. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai essayé de faire en tant que prof de philo. Donc j'ai arrêté, mais je vais reprendre. J'ai arrêté pour me mettre en disponibilité pour écrire le livre sur la rencontre. Mais j'adore trop ce métier, je vais le reprendre. Et c'est ça que j'ai adoré transmettre aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'énerve un peu. L'époque réduit la philosophie à la quête de sens. On dit on a besoin de sens, comme si le sens était un petit cadeau dans un paquet. Pour moi, non, on a surtout besoin de l'excitation intellectuelle, quoi. Mmh. Et parfois, on réfléchit, on est excité, on est ensemble, on s'éclate, et puis on ne trouve pas de réponse. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Par exemple, est-ce que il y a des questions qui sont spirituelles, religieuses, mystiques, métaphysiques, un peu sans réponse, quoi. Donc c'est dur de dire, voilà, le sens, c'est ça. En revanche, de dire qu'on a été bien vivant quand on a réfléchi ensemble, ça se partage. Et ça, j'ai envie de le transmettre. Ouais.
Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est un sentiment que je ressens particulièrement, surtout après avoir écrit mon livre.
Ah, il est fini donc.
Presque. Ouais. Je me dis que si je le dis, ça deviendra.
Ouais.
Mais j'ai quand même l'impression, pour avoir remis en question pas mal de choses, dont les privilèges, que ça reste un privilège. Alors.
Ça,
réfléchir, c'est bien sûr à la portée de tous, mais c'est quand même vachement propre à un certain milieu social. Comment est-ce que tu penses qu'on peut essayer de démocratiser, si je puis dire, ce bonheur et ce plaisir qui est la réflexion, l'esprit critique, déjà, il y a des personnes qui ont des préoccupations vachement plus prioritaires, on va dire, et d'autre part, parce que peut-être ils n'ont pas l'environnement qui va les initier, qui va les stimuler, à l'heure où les Marseillais font plus d'audience qu'une émission sur la philosophie sur France 5.
Il y a une tentation, c'est de faire de la philosophie sur les Marseillais, mais il faut être motivé. Mais certains le font.
On peut peut-être lancer un concept.
Mais quand même, quand on est prof de philo au lycée, on voit bien qu'il faut partir de la vie des gens. Et à partir de là, monter en concept. Et du coup, certains philosophes disent que c'est de la démagogie. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est obligé de faire ça. Du coup, la réponse à ta question, c'est il y a quand même... l'enseignement de la philo en France, c'est quand même pas rien au lycée. Même maintenant, avec la nouvelle réforme, la philo s'en sort très bien. Donc ça, c'est une réponse, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent jusque-là au lycée. Après, on peut essayer de faire sortir la philosophie de l'université et de l'amener partout, dans des festivals, dans des sketchs humoristiques, dans des pièces de théâtre. Alors, pièces de théâtre, tu me diras, ça ne touchera pas à ces milieux-là. On peut aussi essayer d'écrire plus simplement, de façon accessible. Ça n'empêche pas de dire des choses complexes, mais de les dire plus simplement.
Ce que tu fais déjà très bien, je trouve.
Moi, j'essaye vraiment de faire ça. On peut se méfier du jargon. Je suis bien placé pour te répondre, parce que certains de mes livres, alors pas tous, certains sont écrits un peu de façon qui peut être un barrage pour certaines personnes, mais d'autres, notamment le livre sur la confiance en soi, je l'ai vraiment écrit dans ce sens, quoi. Et je rencontre beaucoup de gens dans les signatures, tout ça, qui me disent, j'ai lu qu'un livre cette année, c'est celui-là. Donc là, on est dans un peu la réponse à ta question. Mais c'est vrai que quand on fait ça, c'est difficile de parler en même temps à la personne urbaine qui a fait des sciences humaines et sociales et qui a 60 ans. C'est vrai que c'est difficile dans le même livre de parler à tout le monde. Après, il y a aussi les podcasts, figure-toi. Tu es bien placé. Donc il y a plein de choses.
J'aime bien.
Il y a plein de choses à tenter. Et ensuite, là où ton objection pourrait se radicaliser, c'est de dire oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait les milieux vraiment défavorisés, prolétaires, ouvriers, les milieux dont parle Édouard Louis, par exemple, ou Didier Ribon. Alors là, c'est sûr que la philosophie a toujours eu sur elle cette espèce d'épée de Damoclès, d'un reproche d'être une philosophie pour privilégiés, pour classe moyenne, en gros, soit pour la bourgeoisie, soit pour classe moyenne aisée. Il faut savoir que ça a souvent été faux dans l'histoire. Hein. Voilà, y a...
bah, ouais, même Marx, ouais. Bon, quand même philosophe aussi. Donc,
Et puis, une réponse aussi, c'est de ne pas avoir de mépris pour le développement personnel. Beaucoup de philosophes, ils ont ce mépris. Ils disent, voilà, moi, je ne fais pas de développement personnel. Je ne donne pas de conseils de vie. Alors moi, je ne suis pas comme ça. D'abord, mon podcast s'appelle Philosophie pratique, par exemple, sur Spotify. Et je pense qu'on peut rester philosophe, rigoureux, exigeant, enfin vraiment philosophe, tout en ayant l'ambition d'aider les personnes à se développer. Je trouve ça bien comme idée. Mmh. Du coup, moi, je tente comme ça des énoncés qui sont le résultat d'approches philosophiques, mais qui ressemblent parfois à des énoncés de développement personnel. Donc je me retrouve, par exemple, sur la confiance, à avoir des phrases comme des mantras ou des punchlines qui vont être les mêmes que vont donner, je sais pas, un coach américain qui a pas lu le philo, qui fait surtout quand même de la muscu le matin et qui va devenir un coach de vie et va donner le même conseil que moi.
Ouais.
Par exemple, notamment sur la confiance, par exemple, il va dire entraîne-toi et tu ne sortiras de ta zone de confort qu'à la condition de t'être entraîné, par exemple. Et donc, à un moment, on se retrouve. Sauf que, et c'est, je dis pas ça du tout, je dis ça pas du tout pour dire que mon truc est mieux que ce que propose le coach américain, pas du tout. C'est juste que c'est des chemins différents. Mais moi, quand je donne ce conseil, ben, sur le chemin, j'ai fait une philosophie de l'expérience, une philosophie de l'entraînement, une philosophie de la répétition. J'ai expliqué avec 1000 références pourquoi, par exemple Deleuze, pourquoi la répétition est l'occasion de la sortie de la répétition à force d'être répétée. Mais finalement, on se retrouve sur le même conseil. Et ben, c'est très bien. Simplement, il va pas être reçu par les mêmes personnes et pas au même moment. Mais donc moi, je travaille, en fait, main dans la main, d'un côté avec les grands anciens de la philo, de l'autre côté avec le coach américain qui va dire, venez avec Tony Robbins, en l'occurrence, venez avec moi marcher sur les braises.
Ouais.
Moi, je suis pour le décloisonnement. Ouais. Et j'aime bien traverser les champs. Et d'abord, j'ai pas beaucoup de surmoi. Personne ne m'impressionne vraiment, donc ça aide. C'est ce que me disent mes potes philosophes. Ils me disent, on dirait que t'as pas de surmoi en philo. C'est vrai que j'en ai plus en littérature. Quand je pense à Proust ou à Emmanuel Carrère, je me sens tout petit. Mais c'est vrai qu'en philosophie, j'ai moins de surmoi. J'ai l'impression qu'on peut tout tenter. Peut-être que la philosophie, d'ailleurs, nous demande ça, d'avoir cette liberté, en fait. Et donc, je crois que c'est aussi une réponse à ta question.
Je trouve que la philosophie ne prétend pas détenir la vérité. Elle invite juste à se poser des questions, alors que la littérature, c'est plus vraiment donner sa vision à soi. Enfin, je trouve que ça ouvre moins le champ des possibles que la philosophie.
Peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais.
Comment est-ce que justement, toi, tu te développes? Tu parles de développement personnel. Ouais. Comment est-ce que tu continues à progresser? Ou comment est-ce que tu as progressé?
Très bonne question. Justement, j'ai beaucoup de thérapie, quoi. De thérapie et de coach. À l'instant T, c'est pas toujours comme ça. J'en ai 3, donc c'est quand même beaucoup. Donc je continue à me développer comme ça. Je fais une psychanalyse depuis des années. J'ai aussi un thérapeute comportementaliste pour d'autres choses plus précises. Et j'ai aussi un coach physique. Donc, pour le coup, au moins, on comprendra que donc... Alors que souvent ces gens se font la guerre. Il y a une guerre entre la psychanalyse freudienne, lacanienne et les thérapies brèves. Moi, j'essaie de les synthétiser. D'ailleurs, dans mon émission que j'ai faite sur France Inter cet été, j'ai invité plusieurs fois des gens, soit psychanalystes comme Cynthia Fleury, soit psychothérapeutes comme Émilie Debeuil, qui à chaque fois militaient pour une approche intégrative. Donc, pour te répondre, moi, je me développe comme ça. Je me développe aussi beaucoup en étant très curieux par rapport à des œuvres d'art nouvelles. Et puis après, c'est la vie. Mes enfants aussi m'obligent à comprendre souvent que je me suis trompé, que j'ai été imparfait, quoi. Donc ça, j'en ai 3, donc ça aide beaucoup. Et puis, les belles histoires d'amour, d'amitié. Bon, voilà, on n'arrête pas de se développer, quoi.
Sincèrement, tu n'as même pas cité les livres.
Si, je t'ai dit des belles découvertes et tout.
Ok, ouais, d'œuvres d'art, mais donc ça, tout ce qui touche aux ressources.
Ouais, je pensais aux livres, bien sûr.
Ok, bon, c'est le bon moment de te demander si t'as une ressource en particulier à conseiller aux personnes qui nous écoutent, si tu pouvais offrir genre un livre ou une œuvre d'art à la personne qui nous écoute, ce serait quoi?
Très bonne idée. En œuvre d'art, il y a une incroyable expo au musée Picasso sur le rapport Picasso-Rodin. même sans être érudit, allez-y, vous allez voir, c'est de la beauté. On voit que comment... En fait, pourquoi ça peut aider? Parce qu'on comprend que Picasso, il admirait Rodin et que ça lui a donné des ailes. Donc rien que ça, c'est un beau message. Admirez autrui et vous vous développerez, voilà. Le pouvoir de l'admiration, souvent aujourd'hui, on croit que l'admiration, c'est je suis tout petit par rapport à la personne que j'admire. En fait, pas du tout, il faut admirer pour se développer.
Admirer, ne pas se comparer. Moi, c'est mon conseil.
Exactement, ouais. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, peut-être un livre. Il y a un livre très drôle, le livre de Florent Oiseau, Je vais m'y mettre. Génial roman. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'y mettre, justement, mais au moins c'est drôle et ça nous décomplexe.
Génial. Voilà. Bon, on arrive aux questions de la fin. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. J'ai envie de te demander si tu peux nous partager le meilleur conseil et le pire conseil qu'on t'ait donné.
Ah oui. Alors, le pire conseil, je m'en souviens très bien. Je ne dis pas de qui il vient parce que ce n'est pas sympa. Mais c'est dans ma famille. C'est quelqu'un qui m'a dit, si tu veux réussir, il faut que tu visualises le succès et tout va bien se passer. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Et c'est quelqu'un qui était tellement dans l'auto-persuasion, quoi, un peu comme le serpent, là, et confiance dans Mowgli, je crois, c'est ça le...
Peut-être, ouais. Alors pourtant, j'adore Disney, mais j'ai pas le rêve, là.
Et moi, cette façon de s'auto-bourrer le crâne, de s'auto-persuader, seul avec soi-même, pour moi, en tout cas pour moi, ça n'a pas du tout marché. Pour moi, ce qui marche, c'est le contraire. Et là, on arrive à l'autre conseil, c'est, tu sais quoi, c'est pas en toi qu'il faut avoir confiance, c'est en les autres. C'est en la vie elle-même, c'est en la chance, c'est en l'action. Et confiance en tout ce qui n'est pas toi. Et la confiance en toi viendra par surcroît. Et finalement, j'ai fait un livre entier pour dire ça. Mais c'est d'abord un conseil qu'on m'avait donné.
Okay.
Et puis d'ailleurs, aussi un conseil qu'on m'a donné.
On n'a jamais trop.
Ouais, que mon prof de philo m'a donné au lycée. Il m'a dit, mais c'est de ne pas être exhaustif. Ça, c'est important. Scolairement, mais dans le reste de la vie, souvent, on veut être exhaustif. Et on dit, mais je passerai le concours quand j'irai au bac philo, quand je connaîtrai toutes les notions. Mais non, on n'est jamais exhaustif. Mieux vaut connaître peu de choses, mais très bien, que de vouloir être exhaustif. Et d'ailleurs, souvent, ça nous empêche aussi d'avoir du plaisir par rapport aux goûts musicaux, on veut tout connaître. Mais moi, je pense que, voilà, il vaut mieux, quand on adore un livre, il vaut mieux le lire 30 fois que de lire 30 livres. De même, quand on écoute un bon album.
C'est très vrai. Génial. Écoute, je vais pouvoir te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Ça signifie avoir d'abord l'humilité de comprendre que tu es traversé par plein de choses qui s'imposent à toi, que tu n'as pas choisi. Donc d'abord, prendre le pouvoir, c'est comprendre qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais sur cette base, inventer quelque chose de libre, original et singulier, mais sur la base, non pas d'un déni de tout ce qui entrave ta liberté. Autrement dit, pour moi, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est faire avec de l'héritage quelque chose de neuf.
Super. Bah, voilà. Merci beaucoup, Charles, pour ce superbe échange philosophique. J'aimerais en avoir plus souvent. Donc, bon, j'écouterai ton podcast pour compenser. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes ouvrages, ouais, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver, découvrir tout ça?
Par exemple, sur Instagram.
@pepcharles, je crois.
Ou, je t'avoue que je sais plus.
Ouais, je mettrai dans les notes du podcast.
C'est assez nouveau sur Instagram,
mémoire,
mais quand même,
Pepcharles.
Quand même, ça se développe. Et puis, sur le site, je crois que j'ai un site à mon nom, on retrouve mes livres, mes publications. Ouais. Aussi, tous les lundis au MK2 Odéon à Paris, conférence à 18h30,
génial,
ouverte à tout le monde.
Gratuite?
Non, payante.
D'accord, ok.
Enfin, comme une place de cinéma, moins cher qu'une place de cinéma.
Ouais, ok.
Mais il y a aussi des abonnements à l'année où ça revient à très, très peu cher la conférence. Mais ça, c'est payant. Ou alors gratuit, le podcast sur Spotify. Voilà.
Tout à fait, génial. Bah écoute, comme ça, je mettrai tout dans les notes pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et j'espère à très vite.
À bientôt, ciao.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @pepcharles et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 170 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.